Se préserver est important parce que si on ne peut pas être en capacité d'aider nos proches en dépression, qui le sera ? On a vraiment besoin de les aider dans la durée, on sait que la dépression est longue, c'est pour ça que sur ce processus, il faut prendre soin de soi pour aider vraiment notre proche sur le long terme. Bonjour à tous, vous écoutez Raconte-moi ta dépression, un podcast entièrement dédié à cette maladie. Je suis Manuela Cecilia, alias Queenie, coach de vie chez My Dépression. Si vous êtes ici, c'est que vous devez lutter directement ou indirectement contre la dépression. C'est une maladie que j'ai connue pour ma part en tant qu'ancienne dépressive, mais également en tant que proche de dépressif. Malheureusement, dans notre société, tant que nous ne sommes pas confrontés à la dépression, on n'y prêtons même pas attention. C'est pourtant une maladie très répandue et modifiant au plus profond le comportement des personnes touchées. N'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense pas que tu ne peux pas t'en sortir. Chaque vendredi, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie et motivation. Ton proche est en dépression ? Parfait. Avec ce podcast, tu auras toutes les billes pour savoir quoi faire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le tout nouvel épisode du podcast et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est dédié aux proches de dépressifs. Bien sûr, mes chers dépressifs, ça ne veut pas dire que je vous oublie ou que vous devez arrêter d'écouter ce podcast et vous concentrer sur celui de la semaine prochaine. Au contraire, c'est un podcast pour moi qui est vraiment très important, que vous pouvez partager à vos proches pour qu'ils puissent avoir une aide pour vous efficace. Vraiment, aider un dépressif ne s'invente pas, c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, en tant que coach, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis coach pour proches de dépressifs et j'aide et j'accompagne et j'encourage des proches de dépressifs dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leurs proches ou tout simplement les accompagner pour être une aide efficace pour leurs proches qui sont en dépression. En tant que coach, j'ai l'habitude en fait de fixer des objectifs à chaque coaché. Bien sûr, je ne suis pas là pour coacher des gens pendant des années, mais surtout pour les accompagner par rapport à une situation donnée et leur permettre d'atteindre certains objectifs. Il y a un objectif que je fixe obligatoirement à tous mes coachés, c'est de se préserver de la dépression de son proche. C'est vraiment quelque chose de très important parce que notre proche a besoin de nous sur la durée. Une dépression ne se guérit pas en 5 minutes, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de fastidieux. Et en fait, nous, en tant que proches de dépressifs, pour pouvoir les accompagner, il nous faut avoir vraiment les épaules solides et tenir sur la durée. C'est une course d'endurance qu'il nous faut faire et comme quelqu'un qui apprend à faire un marathon, il nous faut apprendre à courir de la bonne façon. Et l'une des premières choses à faire, c'est de savoir se préserver de la dépression de son proche. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut se préserver et sur trois aspects très importants. Le premier qui est sur le syndrome du sauveur, je vais vous en parler un petit peu plus. Ensuite, c'est comment laisser la limite nécessaire à son proche, comment ne pas la dépasser. Et le troisième point, comment ne pas avoir des attentes surdimensionnées par rapport à notre proche pour ne pas lui rajouter une pression ou nous user à travailler pour rien. Avant de commencer le podcast, je vais vous lire le commentaire du jour. C'est celui de Rome qui a écrit « Bonjour, je viens de découvrir votre podcast sur le conseil d'un proche et je l'ai littéralement dévoré, puisqu'écouté plusieurs fois en l'espace de quelques jours. Merci beaucoup pour ce travail que j'imagine difficile et éprouvant pour vous. Merci encore et continuez comme ça. » Merci à toi Rome, ça me fait très plaisir d'avoir reçu ton message, ça, tu peux pas savoir à quel point ça me réchauffe le cœur. Sincèrement, il est vrai que le podcast Raconte-moi ta dépression, c'est du travail. C'est vraiment du travail, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure ces derniers temps. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose pour lequel je veux m'investir parce que je veux apporter vraiment ma parole sur cette société, sur la dépression. C'est quelque chose de tellement important pour moi que je veux vraiment le faire. Et recevoir vos soutiens par message, ça me donne envie de continuer, de faire quelque chose de qualité, de régulier. Merci encore pour toi, Rome, pour ce commentaire, parce que c'est ce qui me booste. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir le podcast « Raconte-moi ta dépression », vous pouvez le faire par deux façons. Si vous êtes sur Apple Podcasts, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire. Le 5 étoiles permettra au podcast d'être mieux référencé et vu par plusieurs autres personnes. Et si vous êtes sur une autre plateforme de streaming, vous pouvez me laisser un commentaire sur Instagram, Facebook, Twitter, le blog ou par mail. Ça me ferait très plaisir de pouvoir recevoir vos commentaires, de pouvoir vous répondre et bien sûr de pouvoir le citer dans un des prochains épisodes. Merci à vous pour votre soutien, je reçois beaucoup de messages. Continuez, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Merci. Rentrons directement dans le vif du sujet et répondons à la question suivante. Suis-je capable de me préserver de la dépression de mon proche? Ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à faire que de se préserver parce que ça demande en fait d'être observateur, de prendre le temps et de réfléchir sur la situation que nous avons par rapport à la dépression. Sauf que, on va être réaliste, quelquefois on n'a pas le temps. On se réveille un matin, notre proche n'est pas bien, a besoin d'aide, a besoin de nous, ce sont des changements qui arrivent et qui se passent du jour au lendemain. On n'est pas forcément préparé à la dépression et c'est ce qui peut emmener quelquefois des couacs, des problèmes de fonctionnement, d'adaptation les uns les autres à la situation. Donc, pour éviter de se retrouver dans des grosses difficultés, il est très important de savoir se préserver, c'est-à-dire de pouvoir avoir le recul nécessaire pour continuer à aider notre proche dans la durée. Mais se préserver de quoi? Avant de rentrer sur les sujets sur lesquels il faut faire attention, se préserver, cela veut dire être capable d'aider notre proche sur la durée, comme je vous l'ai dit en introduction. La dépression se guérit à peu près entre 6 à 9 mois, mais à partir du moment où le proche a été pris par un médecin, par un thérapeute aussi. À savoir qu'il y a à peu près des fois une moyenne de une séance par semaine, ça ne fait qu'une heure directe avec le thérapeute. Le temps qu'on s'adapte sur le traitement, le temps qu'on trouve les choses, vous retrouvez, vous, avec au quotidien, une personne qui est malade, quelqu'un qui est malade émotionnellement. C'est différent, c'est un changement de comportement, on peut se prendre pour nous les réflexions. C'est une personne qui, par exemple, si c'était une mère au foyer qui n'a absolument plus rien faire, c'est une personne qui peut se retrouver, même si c'était un père aimant, à ne plus être avec ses enfants. La dépression change la personne et nous met dans des situations de retranchement, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à quelqu'un qui nous dépasse, qui nous fatigue et qui nous agace. Je vais dire les mots tels qu'ils sont, ce n'est pas la faute de la personne du tout, mais c'est son comportement qui est fautif. Et là, l'important, c'est que nous puissions continuer à aider notre proche, parce que cette personne a besoin d'aide et besoin de soutien. Et si nous voulons tenir sur la durée, comme notre marathon, il faut être prêt, se préparer, à savoir courir des longueurs, à pouvoir avoir mangé équilibré, pour pouvoir faire du sport tous les jours, pour pouvoir tenir les 25 km d'un marathon. Il y a trois points essentiels sur lesquels, en tant que proche, il est important de se préserver. Le premier est sur le syndrome du sauveur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce triangle entre la victime, le sauveur et le persécuteur? Eh bien, on va l'illustrer dans cette situation. Votre proche est en dépression et du coup, ne refuse totalement de sortir. Vous avez tout essayé, vous avez essayé de le bouger, de le bousculer. Il refuse de sortir, il ne veut pas y aller, c'est compliqué pour lui, il ne se sent pas en capacité d'aller voir du monde dehors. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous proposez à votre proche, toutes les semaines, de faire venir du monde à la maison pour vous aider, pour l'aider un peu à sortir. Bien sûr, vous invitez les personnes de votre cercle très 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 privé, des gens en qui votre proche se sent bien. Toutes les semaines, vous invitez, par exemple, le frère de votre proche à venir à la maison. Quelqu'un, ils sont copains comme cochons, ils s'adorent, ça se passe super bien. Et au bout de quelques semaines, votre proche vient vous voir et vous dire « Je ne veux plus voir la tête de mon frère à la maison, je ne veux même plus voir qui que ce soit à la maison, c'est trop dur pour moi, ça suffit, on arrête. » Et là, vous vous retrouvez un petit peu bête en vous disant « Mais attends, c'est ton frère, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un à qui tu as confiance, vous étiez copains comme cochons, vous passiez tous vos dimanches ensemble, il n'y a même pas 2 mois, pourquoi est-ce ça ne va pas ?»« Non, mais du coup, non, c'est pas disputé, mais moi ça ne me va plus, ça ne me convient plus, en plus c'est toi qui as décidé, moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait continuer ainsi. » Du rôle du sauveur, dans le sens que vous avez vu que votre proche était totalement isolé et avait besoin de ses proches, de sa famille, vous avez demandé à avoir quelque chose de régulier pour le sortir de cette dépression, de sortir de cet isolement, et tout à coup votre proche remet la décision sur vous en disant que c'est votre faute parce que vous avez pris une décision et fait de vous le persécuteur au lieu d'être le sauveur. Cette situation se passe dans plein d'aspects de notre vie et encore plus face à la dépression. On peut très vite devenir persécuteur. Le dépressif se pose toujours en victime. Ce n'est pas sa faute. Je pense que ça doit être dû au manque d'estime de soi, au manque de confiance en soi, qui fait que du coup, ou la fatalité, qu'on se pose en victime, en quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous sommes en capacité de pouvoir aider la personne, alors nous proposons des solutions. Mais nos solutions peuvent, sur le long terme, ne plus convenir à notre proche. Et là, patatras, c'est le drame, vous êtes devenu le persécuteur. En effet, votre proche ne se sent plus libre de pouvoir prendre certaines décisions. Il prend, par exemple, cette histoire de votre frère qui vient tout le temps comme une décision prise par vous et non plus une décision prise par lui. Une personne qui est en dépression souhaite quand même pouvoir toujours être maître de sa vie, même si ses jugements, sa façon de fonctionner dysfonctionne un peu dû à la maladie. Et c'est là où arrivent les frictions et le changement entre le sauveur et le persécuteur. Ce sont des moments très subtils, des moments qui ne se voient pas, où le switch se fait. Ce sont des moments où on peut se retrouver dans un drame monumental. C'est-à-dire que l'une des choses pour lesquelles vous devez vous préserver par rapport au syndrome du sauveur, c'est d'éviter tout simplement de casser des liens ou de créer des conflits inutiles par rapport à ce genre de choses. Ça ne sert à rien de se disputer avec un dépressif 20 fois sur le même sujet, sur les mêmes trucs. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous agacer, vous allez vous aigrir et vous allez avoir du mal à continuer à aider votre proche parce que vous allez avoir l'impression qu'il n'est pas reconnaissant de tout le travail que vous faites. Puisque votre proche n'est pas capable de réaliser ce que vous faites, eh bien vous allez en avoir marre et vous allez arrêter. Et là, vous allez vous dire « ça sert à rien, débrouille-toi, occupe-toi de tes fesses, moi je ne vais plus t'aider ». C'est l'une des choses pour lesquelles il faut absolument se préserver. Votre proche a besoin de vous sur la durée, sur le temps, et vous devez être présent pour lui. Alors comment faire pour squeezer cette histoire de syndrome du sauveur? Comment faire pour faire en sorte que les décisions que vous prenez soient toujours en accord avec votre proche? Eh bien, le premier mot est communication. La communication est la clé et permet sincèrement de passer au-dessus de ces difficultés liées au syndrome du sauveur. Votre proche a besoin de pouvoir être toujours acteur de sa guérison et de décider pour lui. À vous de poser des questions. L'indécision est peut-être l'une des grosses difficultés du dépressif. Il ne prend pas de décision. Sauf qu'à un moment donné, il peut se retrouver en avoir marre. Donc, il ne prendra pas de décision quand vous posez une question, mais il pourra vous dire qu'il ne supporte plus la décision. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? À chaque fois que vous prenez une décision avec votre proche, toutes les 3 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines, tous les 3 semaines, posez la question à votre proche si la décision convient toujours. Ne prenez pas pour agent comptant le fait que vous avez déjà parlé il y a un mois avec votre proche sur une situation. Il faut que la communication soit toujours là. Et pour qu'elle ne soit pas envahissante, c'est une communication que vous devez avoir tous les jours. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que ça c'est trop pour toi? Est-ce que ça c'est pas assez pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? N'ayez pas peur de poser beaucoup de questions et des questions précises. Votre proche pourra être très vague, très indécis, très peut-être, je sais pas, machin, gnagnagna. N'ayez pas peur de continuer de lui dire « moi j'ai besoin d'une réponse claire. Si c'est pas maintenant, peut-être que tu pourras me le dire demain, mais je souhaite une réponse ». Avoir une communication franche avec votre proche vous permettra de rester en tant que sauveur ou rester en tant que aidant, parce que sauveur, ce n'est pas forcément le meilleur terme, mais en tant que aidant, et de ne pas être un persécuteur. Si votre proche vous reproche une de vos actions, ne vous mettez pas non plus en boule contre votre proche en disant « oui, tu n'es qu'un ingrat, j'ai fait des choses pour toi, comment est-ce que tu ne peux pas m'aider ?» Rappelez-vous que votre proche est toujours en dépression, il est indécis, il ne sait pas quoi faire. Son esprit change, il y a des variations dans son humeur, puisque la dépression s'appelle le trouble de l'humeur, donc un coup ça va, un coup ça va pas. Rappelez-vous de ces changements-là. Et pour pouvoir vous préserver, il est très important pour vous de vous préserver de ces changements d'humeur et d'avoir pour vous, premièrement, une écoute, une capacité de pouvoir lâcher toutes vos émotions, faire du sport, avoir une activité qui vous plaît et autres, savoir se concentrer sur les autres et le dernier point, être conscient de ses limites et conscient de qu'on ne peut pas aller plus loin que ce que là on peut aller. C'est pas forcément la meilleure phrase, et être conscient de ses limites. Les limites, il y a des limites à ne pas dépasser, ce sont vos propres limites. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième point, la limite sur l'aide à avoir pour son proche. Le syndrome du sauveur vous montre que vous avez les capacités d'aider votre proche. Mais le deuxième point vous rappelle que pour pouvoir trouver votre équilibre dans le rôle du sauveur ou de l'aidant, vous devez être conscient de vos limites. C'est souvent le deuxième point qui fait que ça peut partir en steak complètement la relation qu'on a avec notre proche. Il est très important que le dépressif soit acteur de ses guérisons, soit acteur de ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui fatigue et qui épuise sur le long terme. C'est peut-être des phrases qui peuvent être un peu dures pour vous dépressifs, mais je le suis dépressive, enfin je l'ai été, je le suis plus vraiment. Je sais ce que ça veut dire et je sais que j'ai usé beaucoup mon conjoint. Ce n'est pas une culpabilité que j'ai parce que ce n'est pas ma faute, c'est la dépression qui fait ce comportement. Et c'est là où vos proches, si vous voulez continuer à aider sur le long terme, vous devez être conscient de la limite de l'aide que vous pouvez apporter à votre proche. Comment définir cette limite? Il y a deux choses, l'urgence et la réalité de la situation. La première chose est l'urgence. Quand on est dans l'urgence, c'est-à-dire que votre proche a besoin d'aide maintenant, votre proche a des propos suicidaires maintenant, votre proche ne sort plus maintenant, votre proche a des difficultés pour travailler maintenant, votre proche fait des crises d'angoisse maintenant, ça c'est une urgence. Votre proche a besoin de vous à l'instant T. Et ça, ça peut durer peut-être quelques semaines, quelques mois, où c'est dans l'urgence que vous devez traiter toujours une situation. Ce n'est pas facile, mais l'urgence ne peut pas non plus être édulcorée en disant « Même si votre proche, ça ne va pas trop, il y a quand même le système médical, reposez-vous. » Non, ce serait vous mentir. Quand il y a des situations d'urgence, on prend sur nous, c'est des moments difficiles, on recherche dans nos tripes la façon de gérer la situation, ce n'est pas évident. Mon conjoint s'est retrouvé dans cette situation, c'est-à-dire que je ne voulais plus aller travailler, je ne voulais plus voir des gens, et il s'est retrouvé pendant 3-4 mois avec une personne qui ne sortait plus. Et donc c'était encore plus néfaste et très dangereux pour moi. Donc à ce moment-là, il a dû agir tous les jours pour m'aider, aller voir mon psychiatre, me forcer, me convaincre, et ça a été un travail pas évident. Mais comme j'étais dans une urgence définie, à ce moment-là, il fallait m'aider. Quand on sort de l'urgence, c'est-à-dire que tout est à peu près cadré, il y a un traitement qui est mis en place, votre proche a peut-être un petit peu repris le travail, pas vraiment, mais il y a quelque chose de cadré. Quelque chose de cadré, c'est toujours le traitement qu'il y a avec le thérapeute qui commence à faire effet. Et bien à ce moment-là, il faut savoir un peu se retirer. Quand votre proche commence à se retrouver correctement dans des situations, il va falloir lui refaire confiance. Et c'est là où votre limite va arriver, c'est de la confiance. Quand vous n'êtes plus dans l'urgence et dans la situation qui est la réalité du quotidien, vous devez laisser à votre proche la prise en main de ses propres décisions. C'est à lui ou à elle de définir ce qu'il doit faire et non à vous. Vous devez laisser votre proche prendre ses propres décisions, même si pendant quelque temps, il n'a pas été en capacité de le faire. C'est pas parce qu'on n'a pas été en capacité de le faire à un instant T qu'on ne sera plus capable de le faire différemment quelques temps après. La thérapie est là pour transformer votre proche. Votre proche sera transformé par sa thérapie. Et ça peut commencer très très rapidement. Et c'est ça dont il faut être absolument conscient. C'est-à-dire que du jour au lendemain, votre proche peut avoir fait des déclics avec son thérapeute. Bon, ça peut être bien sûr, des étapes, mais vous n'êtes pas là à la thérapie, donc vous ne voyez pas. Et du jour au lendemain, votre proche commence à aller mieux. Et là, vous voulez contrôler encore plus votre proche. Eh bien, vous avez dépassé la limite parce que là, lui, il a besoin de prendre ses propres décisions. Une fois que votre proche est établi, que les choses sont faites, que les choses sont définies, il faut lâcher du lest et avoir l'humilité de se dire « cette partie ne m'appartient plus et t'appartient à toi, proche ». Et je sais à quel point c'est pas facile. J'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint qui me disait des fois « j'avais envie de te dire ça, mais je le faisais pas parce que tu m'avais déjà dit de pas le faire ». Ben, du coup, c'est pas évident pour lui, mais il me l'a dit, et moi, ça m'a permis de voir qu'il me refaisait confiance, et c'est là où je me suis dit, c'est à moi d'agir. C'est important de laisser la limite et de laisser, à un moment donné, à votre proche, la prise de décision. Comme je l'ai dit, l'urgence est à traiter obligatoirement quand votre proche se met en situation de danger. Mais quand votre proche est dans un endroit cadré, il faut laisser à votre proche la possibilité de prendre lui-même ses propres décisions. Maintenant que vous avez vu que le syndrome du sauveur, vous pouvez devenir un aidant, c'est-à-dire que vous allez laisser votre proche pouvoir gérer au mieux ses difficultés, prendre ses décisions, en ayant une communication franche, pour que toutes les décisions que vous proposez puissent toujours être sous l'accord de votre proche. Le fait pour vous d'avoir une écoute est important, le fait de pouvoir avoir des activités pour vous est très important, et le fait de laisser à votre proche la limite nécessaire, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas une urgence et que ça fait partie de la réalité du quotidien, il faut laisser à son proche la possibilité d'être acteur de sa guérison. La dernière chose à faire est d'être conscient des attentes que l'on peut avoir sur son proche qui est en dépression. Il ne faut pas avoir trop d'attentes sur un dépressif, pour un dépressif, parce que chaque dépression avance pas à pas à son propre rythme. C'est très important de se dire, je ne vais pas me dire que dans 6 mois ça ira mieux, dans 3 mois ça ira mieux, dans quelques semaines ça ira mieux, il va aller voir le psy, ça va être génial, ça va se passer super bien. Ce sont des attentes qu'il ne faut pas avoir. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que votre proche va réagir à la thérapie. Personne ne peut prédire comment est-ce que votre proche va aller mieux. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'essaie de dire souvent à mes coachés, c'est que les attentes qu'on a par rapport à la guérison d'un dépressif ne sont pas forcément bonnes à avoir. Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que d'avoir des attentes. Parce que si vous avez des attentes et que vous êtes déçu, ça va avoir un impact forcément sur votre comportement sur le long terme. Ça ne veut pas dire que vous devez dire tant pis, je vais attendre qu'il reste comme ça, c'est tant pis pour lui, moi je ne peux pas avoir d'attente, je ne peux pas avoir d'espoir. C'est pas ce que je vous dis, c'est surtout qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser au dépressif le cadre nécessaire pour pouvoir gérer au mieux sa dépression. Et si vous avez des attentes, elles vont avoir une influence, que vous le vouliez ou pas, sur votre comportement. Et si vous êtes déçu, votre proche n'avance pas assez vite pour vous, les choses n'avancent pas assez vite, vous allez vous retrouver frustré, peut-être avec de la colère, après du mépris, du dégoût, et qu'est-ce que ça va avoir des conséquences sur votre relation entre vous et votre proche. L'une des choses que je dis toujours à mes coachés, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attentes trop élevées sur le comportement de son proche. C'est très important de se rappeler qu'il ne faut pas se dire que demain ça va aller mieux, lundi ce sera comme ci, mardi ce sera comme ça, parce qu'il a vu son thérapeute. Non, ça va aller mieux dans le temps, parce qu'il faut donner du temps à son proche, mais commencer à mettre des deadlines, des limites, du temps, quantifier les choses n'est pas forcément la chose à faire. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Il faut laisser vraiment au dépressif la possibilité de vous montrer par vous-même comment il guérit. N'imaginez pas la situation, ne commencez pas à vous dire dans telle chose ça va bien se passer, dans tel autre truc ça va bien se passer. Vous allez sûrement me dire, oui mais Queenie, ça me fait perdre espoir, j'ai besoin d'avoir espoir. Comment est-ce que vous pouvez détourner cet espoir sur autre chose que quelque chose de quantitatif? Eh bien, c'est en étant encourageant tous les jours et en observant tous les jours comment votre proche avance. Soyez conscient des étapes qu'il a réussi à faire. Votre proche a peut-être accepté votre aide, soyez-en content. Votre proche a accepté de voir un thérapeute, votre proche voit un thérapeute, votre proche n'a pas fait de tentative de suicide, votre proche n'a pas menti sur certaines situations, votre proche prend un traitement. Il y a tellement de petites situations que vous pouvez garder en vous qui vont vous aider à voir que votre proche avance. Certes, on attend vraiment que la dépression sorte et que votre proche puisse se sentir bien mieux, se débarrasser de la dépression à jamais et autres, ça demande beaucoup de temps. Et ce n'est pas un paramètre que vous pouvez avoir entre vos mains, parce que le dépressif ne l'a même pas lui-même. Sincèrement, quantifier ses attentes, définir des choses dans son esprit, c'est humain. C'est ce qu'on fait toujours, parce qu'on a de l'espoir, on veut que ça se passe bien. Avec la dépression, ça ne nous préserve pas, ça nous fait sortir des sentiments négatifs en nous et ça peut être source de conflits, de disputes et autres, d'avoir des attentes démesurées, de dégoût et même des fois de casser des couples, casser des familles parce que nos attentes n'étaient pas les bonnes. Je sais ce que c'est que d'avoir des attentes en tant que dépressive parce que j'avais beaucoup d'attentes sur moi-même et sur la façon dont je devais guérir. Et le fait que j'ai vu que mon conjoint avait certaines attentes a eu vraiment beaucoup d'impact sur notre couple. C'est des choses qu'on a réussi à combattre ensemble, tous les deux, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et le fait qu'il ait cassé ses attentes, qui m'a laissé le temps de pouvoir m'en sortir de ma dépression, a été bien plus facile pour lui encaisser que de s'imaginer que dans tel moment, je vais me sentir mieux, ou dans tel moment, je vais me sentir mieux. C'est vraiment des choses qui vont vous préserver vraiment de la dépression de votre proche. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? À chaque fois, je me dis, j'espère que je parle pas trop. Sincèrement, c'est vraiment important de voir le travail qu'on peut faire pour nos proches qui sont en dépression. Et il y avait aussi un petit point que je voulais dire, c'est que voilà, je suis coach pour proches de dépressifs. Si vous avez vraiment besoin de pouvoir être accompagné, aidé par rapport à la dépression de votre proche, je vous laisse dans les notes de l'épisode un lien pour les appels, un appel gratuit de 30 minutes qui vous permettra d'échanger avec moi sur les difficultés que vous rencontrez à ce moment-là. Et ensuite, nous verrons ensemble comment est-ce qu'on peut régler votre difficulté, comment est-ce qu'on peut vous apporter le plus de connaissances nécessaires pour aider votre proche. C'est un travail que je fais actuellement avec mes coachés et que je peux faire actuellement aussi avec vous si vous en avez envie. On a vu aujourd'hui qu'il est très important de se préserver de la dépression de son proche. C'est quelque chose qui est important pour qu'on puisse tenir sur la durée. Il faut éviter de se retrouver en tant que sauveur ou en tant que persécuteur. Donc pour cela, il est important d'avoir pour soi-même des activités, une écoute, être conscient de la limite de l'aide qu'on peut avoir. Bien sûr, les urgences sont importantes, mais sur l'aide, sur la réalité des choses, il faut laisser le temps au temps et laisser à son proche la possibilité de prendre ses décisions, la possibilité de s'en sortir, avoir une communication très très forte et ne pas avoir des attentes trop élevées sur la guérison de notre proche et se dire bah, « dans tel moment ça va aller mieux ». On serait très déçu si ça ne va pas. Et ça va nous permettre de nous préserver, de rester calme, de ne pas se retrouver avec des interférences sur les décisions que nous prenons pour notre proche et nous pourrons ainsi l'aider efficacement. Ça a été un plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !